Cube Radio.
Hey Germain, la dernière fois que t'as acheté un appareil électronique, là, tu sais, un ordinateur, un téléphone ou un lecteur MP3.
Un gramophone?
Ouais, ça peut-être pas un gramophone, là, mais tu sais, un appareil électronique, là. Est-ce que t'as été l'essayer en magasin, prendre le temps de jouer dessus ou t'as simplement regardé sur Internet ce qu'il y avait de bon, choisi un modèle que t'aimais, puis est-ce que tu l'as commandé comme ça?
T'es vraiment de mauvaise foi, Marc-André, parce que je sais exactement où tu t'en vas avec cette question-là. La réponse, effectivement, je n'ai pas été en magasin toucher et manipuler l'objet en question. Je l'ai commandé directement en ligne, mais sous la recommandation de mon Geek Squad personnel, qui ne nous écoute fort probablement pas. On le salue, Giuseppe et la Barbera. Mais à ça, j'ai un contre-exemple, Marc-André.
Un contre-exemple.
Parce que, bon, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde. Hein, c'est une fois n'est pas coutume. Et je me suis procuré deux paires de jeans, deux paires de pantalons en denim bleu, en ligne, dans une grande bannière américaine dont les initiales sont W et M. Et j'ai pris la taille habituelle que je porte depuis désormais quelques années. Mon tour de taille est assez fidèle. Vous écouterez les bloopers pour savoir quelle est cette taille. Et une fois les deux dites paires de jeans arrivées, il n'y avait pas moyen de les monter plus haut que le mollet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai retournés où? En magasin. Et j'ai fait quoi? J'ai acheté finalement deux paires de jeans, deux paires de pantalons en denim en magasin. Il y a eu trop d'étapes pour simplement acheter deux paires de jeans.
Je ne sais pas si ton aventure vestimentaire s'applique à ce dont on va discuter, mais tu vois, Volvo... Ils ont annoncé que toutes leurs voitures là allaient être électriques d'ici 2030. Ben, ils comptent pour l'occasion mettre fin au modèle du concessionnaire. En effet, on ne pourra jamais acheter une voiture Volvo en magasin. Il va falloir l'acheter en ligne. Il va y avoir quelques points ici et là. Là, on va pouvoir peut-être voir la voiture, une genre de boutique dans un centre commercial. Mais fini les concessionnaires Volvo avec de gros inventaires. Et ça m'amène à poser la question... Est-ce que tu crois que le concessionnaire peut survivre à l'avènement d'électrification?
Ben écoute, c'est une excellente question et je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques instants pour y réfléchir ensemble.
Ben je pense qu'on peut partir là-dessus.
On peut partir, oui. On part!
On part! La dernière fois que j'ai acheté un ordinateur, Germain, là, c'était tout un cauchemar parce que, je sais pas si tu sais, moi, mais j'aime occasionnellement jouer à des jeux vidéo, donc ça me prend une machine qui est quand même capable de le faire. Donc, ça prenait une bonne carte graphique, etc. Et on vit une époque...
Je comprends déjà plus.
La carte graphique, pour ceux qui ne comprennent pas non plus, c'est la partie d'un ordinateur qui sert à créer une belle image qu'on voit. Et plus l'image est demandante, par exemple un jeu vidéo, ça prend une carte plus forte. Typiquement, un ordinateur normal n'en a pas. C'est une carte intégrée qui n'est pas capable de créer...
Encore moins, passons!
Tout ça pour dire que ça a été compliqué à acheter parce qu'il y a tellement de modèles différents que je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des essais en ligne sur YouTube ou des capsules de chroniqueurs spécialisés en technologie pour finalement me faire une idée. Je la jette sur un site web, ça arrive par la poste. Puis c'est pas que j'ai été nécessairement déçu de l'ordinateur, mais il y a plusieurs éléments qui ne m'ont pas plu, notamment la finition du matériel, certaines caractéristiques de la machine au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pu voir, tu sais, si j'avais pu vraiment l'essayer, aller quelque part, manipuler l'objet, vraiment passer quelques temps dessus. Un peu comme si j'avais été chez le concessionnaire faire le tour d'une voiture, tu sais.
Mais dans le même esprit, j'ai plusieurs amis qui ont acheté un condo ou une maison sur plan. C'est-à-dire que au moment de signer l'achat, eh ben, t'as devant toi un champ en friche. Et ben tu dépenses plusieurs centaines de milliers de dollars pour un condo ou une maison pour lequel tu vas avoir les clés dans un an, deux ans, peu importe. Je n'achète, et là j'ai fait exception à ça, je n'achète pas un morceau de vêtement sans l'essayer. Alors je me voyais très mal acquérir une propriété immobilière sans même l'avoir de mes propres yeux.
Ben écoute, peut-être que tes amis aiment ce genre de risque-là. Moi non plus, une maison, j'aurais tendance à vouloir l'avoir, au moins voir l'unité démonstrateur. Et ça nous amène justement à tout ça, à réfléchir un peu sur le modèle du concessionnaire automobile. Parce qu'historiquement, on a toujours acheté des voitures dans un concessionnaire. Puis ça vient avec toute cette espèce de mythologie qui entoure le concessionnaire. T'sais,
oui, du moins, des fois.
Le vendeur qui est là, qui essaie de te pousser des équipements que t'as peut-être pas besoin. Après ça, t'as le gars aux finances qui essaie de te vendre des produits financiers. Donc t'as peut-être pas besoin. Mais tu sais, on leur en veut pas. Ils font leur travail. C'est des vendeurs. Puis c'est aux consommateurs, à la rigueur, à se renseigner un peu. Mais là, je veux pas passer un délai sur ce débat-là.
Ouais, parce que ça pourrait déraper.
Ça pourrait aller loin, là. Il y a des lois aussi qui encadrent tout ça. Mais le cœur du propos, c'est tout simplement de dire que le concessionnaire, c'est un peu mythique, hein. C'est quelque chose qui est un passage obligé pour acheter une voiture. Et on pourrait se demander, si on arrive à acheter autant d'objets que ça en ligne sans même rien voir, là, comme des appareils électroniques, etc., des vêtements dans ton cas, apparemment même maintenant des condos, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un concessionnaire? Pourquoi je pourrais tout simplement pas acheter une voiture en ligne? Puis Volvo a pris le pari de dire, nous, c'est ce que nos consommateurs veulent. Ils veulent une expérience qui n'a plus de négociation. Ils veulent plus le tracas d'aller voir les conseillers financiers pour le financement, ni le vendeur. Ils veulent plus rien avoir d'élé. Ils veulent aller en ligne, commander leur voiture, la mettre de leur goût, c'est-à-dire choisir la couleur, parce que Volvo semble sur le point de réduire en fait considérablement le nombre d'options sur ses voitures pour diminuer l'aspect de personnalisation.
La standardisation finalement,
ouais, exactement,
de ces modèles.
On va pouvoir choisir la couleur, puis ça va être à peu près ça éventuellement. Ouais. Et se la faire livrer dans un point de service. Bien entendu, ceux qui veulent essayer la voiture avant, puis ça je peux comprendre, là, ils vont avoir des espèces de, un peu comme Genesis fait, là, des genres de boutiques, c'est-à-dire...
Quand on parlait de Volvo, cette décision-là ne surprend pas, parce que dans la même grande famille de Geely, eh ben on a Polestar qui est la marque la plus récemment débarquée sur notre marché finalement, et c'est cette stratégie-là qu'on a mis de l'avant, celle de ne pas avoir de concessionnaire. Donc on a des points de vente, des boutiques, celle de Montréal ouvrira bientôt au centre-ville, et ben ce ne seront pas des concessionnaires dans leur forme traditionnelle. Non. Donc oui, on va avoir des véhicules en démonstration sur place, mais tout le processus va se faire en ligne. Évidemment, il va y avoir des gens pour accompagner dans le processus sur place, mais tout va se dérouler en ligne. Il n'y aura pas d'inventaire non plus. Donc,
Non, on ne pourra plus arriver avec de l'argent ou peu importe. Là, on ne pourra plus arriver quelque part puis se dire, ah, j'ai telle voiture qui est sur mon terrain, elle n'est pas de ta couleur, je peux te faire moins cher, mais tu peux partir avec maintenant. Donc, Volvo dit qu'ils garantissent une livraison rapide. Là, il faudra voir comment ça va fonctionner. Ils vont pas avoir un gros entrepôt quelque part avec toutes les voitures, puis quand ta commande, ils vont te la livrer. Mais ça va être la fin du modèle d'inventaire, c'est-à-dire que les concessionnaires n'auront plus, ou du moins les points de service, là, parce que Volvo disent vouloir travailler avec leur partenaire actuel. Donc, si on a une concession Volvo,
bien sûr,
on va continuer de livrer des Volvo, on n'aura juste plus d'inventaire. On ne pourra plus en acheter plein.
Et il y a la question de l'entretien aussi, parce que la première étape, évidemment, chez un concessionnaire, c'est l'achat du véhicule, mais les consommateurs, ils retournent par la suite pour l'entretien et les réparations. Donc, il va falloir conserver un endroit pour effectuer ça, là. Et l'idée du concessionnaire, c'est d'avoir un point de service à proximité. Donc, si tu as à parcourir quelques centaines de kilomètres pour accéder à ce fameux point de service-là, ben c'est totalement inutile. Donc, l'idée est de garder, je pense, un emplacement pas trop loin, là.
Exact. Donc, tout ça revient à dire qu'éliminer le concessionnaire, c'est pas de temps détruire le milieu physique que détruire d'un rituel d'achat d'une voiture. C'est-à-dire, il y aura plus de vendeurs pour nous pousser des choses, il y aura plus de FNI pour nous pousser des produits financiers. Ça va être...
Et c'est la formule de prix unique.
Exactement. C'est que le prix que j'ai en ligne, c'est le prix que je vais avoir au magasin. Ce qui est le cas pour la plupart des objets qu'on achète. Hein. C'est rare, tu sais, qu'on va acheter un ordinateur en ligne. Je prends encore l'exemple d'Apple, là, mais c'est rare que j'ai acheté un MacBook sur Internet, puis arrivé en boutique, je réussis à dealer 50$ ou 100$. Là.
Non, non. Il va te regarder et va dire va-t'en.
Le prix, c'est celui en ligne, monsieur, tu sais. Donc, ça tombe sous le sens un peu que les voitures, ça soit comme ça.
Mais c'est tellement ancré, le processus de négociation, c'est tellement conservateur et traditionnel comme milieu que je ne sais pas comment ça va se dérouler, comment les concessionnaires vont être réceptifs à ça et les consommateurs, parce que on peut pas dire que Genesis, jusqu'à maintenant, qui offre ce système-là, ce soit une très, très grande réussite.
Non, là. Genesis, de un, c'est marginal. Et cette approche-là, concierge, là, elle est vraiment unique au Canada. Hein.
Oui, je comprends là qu'on va aller chercher le véhicule chez toi et te le ramener, mais pour une marque un peu plus généraliste...
Non, n'importe qui a du volume peut pas faire ça.
Ça n'a aucun bon sens.
Non, c'est une question que j'avais posée aux jeunes Genesis quand j'ai eu l'occasion de reparler l'été dernier. Je lui ai dit, c'est bien beau tu sais tout ce que vous faites, mais là, vous vendez 100 véhicules par mois. Là. Si vous aviez le volume, disons, même pas de Mercedes, vous aviez le volume d'Infiniti ou Lexus, là, Seriez-vous capable de maintenir ça? Ah oh, oui, ben tu sais, c'était pas un oui qui avait l'air très confiant. C'était un oui, on le dit, mais
ça va prendre beaucoup de RAM 3500 des RAM fermés.
Ça va en tirer des Genesis. Et même aux États-Unis, ils sont pas capables de faire ce service-là. Ils essaient de le faire, mais ils peuvent pas le faire partout. C'est vraiment au Canada que c'est assez unique. Mais Genesis, c'est un cas à part, là, parce que c'est basé sur Hyundai qui garde son réseau de concessionnaires.
Absolument.
Volvo, là, c'est vraiment la première fois qu'une marque mainstream, c'est-à-dire que son réseau de concessionnaires annonce que c'est la fin des concessionnaires.
Ouais.
Penses-tu que c'est une chose qu'on va voir avec les années, ça?
Ben, écoute, je nous sens tous les deux quelque peu réfractaires et je réponds à ta question en posant une autre. Est-ce qu'on assiste à peu près au même phénomène que les chauffeurs de taxi qui regardaient Uber arriver et qui se disaient « Oh non, non, ça arrivera pas, ça arrivera pas » et qui finalement se plaignent du changement et de la nouveauté, là?
Ben ça tu vois,
et l'industrie du taxi, c'était un autre domaine qui avait assez peu évolué cours des dernières décennies là.
Puis ça c'est tout le temps le problème qu'il y a un gros changement. Les gens qui défendent corps et âme le taxi puis s'opposent à Uber, la plupart du temps c'est pour des raisons humaines, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi souvent ils ont dû payer des fortunes et je marche même pas mes mots là, ça coûte des fortunes avoir une licence, c'est le prix d'une maison pour avoir une licence qui vaut plus rien essentiellement et donc c'est des gens qui se retrouvent dans le pétrin financièrement. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'Uber paie bien ses chauffeurs? Ça,
c'est une question absolument légitime.
Mais tout à fait.
Mais toujours est-il que c'est la technologie qui arrive pour faire évoluer
c'est bien plus commode,
un milieu encrassé.
Oui, écoute, demain matin, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a mis le taxi justement pour ça. T'appelais, taxi, peu importe.
Oui, votre taxi s'en vient, monsieur.
Le vieux dispatch au CB, le gars, il arrive pas. Le char est tout pété, la personne est bête, etc. Tandis que tu crées un système technologique que tu commandes avec ton téléphone, il y a une espèce de sélection naturelle de chauffeurs qui se fait au sens que si quelqu'un est pas bon, il va avoir des mauvaises notes et éventuellement il sera plus dans Uber. Donc tu es toujours garanti une certaine qualité de chauffeur et je peux comprendre que cette espèce de dérangement-là fait mal. Et c'est une bonne chose qu'il y ait des dérangements comme ça. Il faut trouver le moyen, en tant que société, je pense, d'amortir ces dérangements-là. Par exemple, les concessionnaires. Si demain matin, ils disparaissaient toutes, là, ben, il y a des gens qui ont des méchantes belles carrières en vente automobile, qui arrivent à bien gagner leur vie. Il y a des familles qui dépendent de ces emplois-là. Si demain matin, on disait à tout le monde, ben, vous êtes plus des vendeurs, vous êtes des spécialistes de produits.
Absolument. Qui ne sont pas rémunérés à la commission.
Et non, mais ils sont pas mal moins rémunérés, là.
Ouais.
Parce que
ça va être difficile en étant spécialiste de produits, de continuer à avoir des salaires aussi élevés. Et bon, la question de main-d'œuvre est intéressante parce que qui dit commande en ligne dit aussi magasinage en ligne.
Oui.
Et il existe des plateformes comme Nissan en fait, donc un espace concessionnaire en ligne. Cadillac avec Cadillac Live a créé le même principe. Oui. Si ce que vous entendez ne vous dit rien, ben prenez le temps de jeter un œil sur Internet, ça peut valoir la peine. Donc vous c'est une expérience qui recrée une visite de concessionnaire, mais de manière virtuelle, grosso modo. Mais bref, ça emploie des gens, ça emploie des spécialistes de produits, des gens qui ne sont pas payés à la commission, évidemment.
Non.
Mais tout ça pour dire que ben, là où il y a peut-être des pertes d'emplois, on en crée des nouvelles, même si c'est pas nécessairement à la même hauteur.
Non, ça c'est sûr. Mais tu vois, là, Volvo va le faire, puis apparemment, c'est depuis 2019 qu'ils sont en train de travailler avec leurs partenaires dans le monde, là, parce que pas juste au Canada qu'il y a des dealers Volvo, pour arriver à faire une transition. Moi-même, j'avais essayé de rejoindre certaines personnes en concession. Certains se sont dit surpris d'apprendre ça ce matin, mais de ce que je comprends, la plupart des gens en direction le savaient que ça s'en venait, et ils voient ça plutôt favorablement parce que, oui, ça va être différent côté revenu pour eux, mais au final, c'est avec l'entretien qu'ils vont continuer de faire leur argent, parce
bien
qu'on
sûr.
Sait, les concessionnaires, c'est une bonne partie de leur argent vient de l'entretien. Et des Volvo, si on se fie à leur réputation en termes de fiabilité, ils devraient en avoir en masse de l'entretien. Même si
c'est pas demain matin que les ateliers de mécanique vont arrêter,
d'opérer. Même si la voiture électrique est plus fiable à la base, il y a quand même beaucoup de choses autour de ça à entretenir sur une voiture, notamment freins, pneus, bifilas, etc. Là.
Depuis le début, on parle d'achat, mais il y a un phénomène qui est très populaire au Québec, entre autres, c'est la location de véhicules.
Ouais.
Donc, cette question-là va demeurer. Il va falloir aller retourner la voiture en quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture-là? Donc, est-ce que le point de vente Volvo, qui n'est pas un concessionnaire, va se charger lui-même de revendre le véhicule âgé de
3 ou 4 ans? Peu importe,
est-ce qu'on va c'est une question qui demeure un peu...
Parce qu'il y aurait un inventaire d'usagers, pas de neuf, mais
on aurait exactement. Et ça aussi, c'est une belle part de revenus pour certains concessionnaires qui revendent les véhicules d'occasion.
Exact.
Donc, il y a un flou qui continue d'exister.
Parce que si je jette ma Volvo en ligne, puis donnes un véhicule en échange, il faut que quelqu'un évalue le véhicule.
Ouais.
Tu sais, je peux pas juste écrire le kilométrage plané, il faut que quelqu'un l'inspecte visuellement et tout là. Donc ça implique que si je donne un véhicule en échange, je fasse affaire avec un point de service qui va maintenir une certaine expertise à ce niveau-là.
Et tout dépendant de l'endroit où tu te situes au pays, ben le véhicule peut valoir plus cher ou moins cher.
Ça, c'est vrai aussi.
On va prendre l'exemple de Niaris, elle vaut pas mal plus cher au Québec qu'en Alberta là.
Non, ils en veulent pas vraiment les Albertains.
Ben non, exactement. Donc on peut pas avoir un système informatisé centralisé à Toronto qui gère ça.
Non, exactement. Et tu vois, je pense aussi que ça va dépendre beaucoup du type de véhicule, étonnamment, la disparition ou pas d'un concessionnaire. Parce que, par exemple, j'ajoute une Camry, je pense que ça peut bien se faire en ligne, mais tu prends des véhicules qui ont énormément de niveaux de personnalisation, un pick-up, par exemple,
ouais.
Ou même une Porsche. Tu sais, si on connaît moindrement Porsche, on sait, là, chaque chose sur la voiture est personnalisable. Ça ouais. va de la couleur de l'arrière-plan de ton tableau de bord à la couleur des poignées, à la couleur du signe
et
de ton modèle.
Et tout est agençable.
Exact. En plus, donc, eux, je peux comprendre que si j'ajoute une Porsche 911, en ligne, tu peux tout faire. Tu peux tout choisir les 15 000 options, là, c'est juste très long à faire, mais tu pourrais des fois vouloir être assister d'un expert qui pourrait t'aider, blablabla. Au moins voir les matériaux, parce qu'en ligne, ça fait pas nécessairement justice quand tu choisis un bois plus que l'autre, etc. Et les maudits pick-up, là, la longueur des boîtes, le différentiel-ci, différentiel-ça, suspension-ci, suspension-ça. Ça, avec, ça va bien qu'un concessionnaire. Et finalement, commercialement parlant, là, t'achètes 200 Silverado demain matin. Tu vas juste aller sur chevrolet.ca, faire ton Silverado, puis dans la petite boîte, cacher 200 au lieu de 1, puis mettre ça dans ton panier, puis passer à l'achat, là. Je pense que ça va te prendre quelqu'un pour
ta carte de crédit.
Non, je pense que ça va, il va te faire, j'espère que t'as une carte limitée. Mais il va te falloir que t'aies un contact à un moment donné pour t'assister avec ta flotte commerciale. Fait que tu sais, c'est un modèle, je pense, qui peut prendre beaucoup de place, là, je suis en ligne. Mais il va falloir que les marques gardent une expertise, ne serait-ce qu'en relation avec les gens, parce que c'est ça qui fait que les concessionnaires, quant à moi, ont une grosse valeur, c'est la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs clients.
La relation communautaire, la
Exactement.
Relation de proximité.
Exactement.
Et c'est ce que le manufacturier ne voulait pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Se chargeait du développement du véhicule, de sa fabrication, de son acheminement, de son marketing même, mais la gestion du client. On n'avait pas d'intérêt à faire ça. Et visiblement, pour accroître son importance, pour accroître probablement une certaine rentabilité, eh ben, il y a une limite à prendre à intégrer de manière horizontale, c'est-à-dire d'acquérir des concurrents pour augmenter ses parts de marché. Eh ben, là, visiblement, on essaie d'intégrer de manière verticale, c'est-à-dire d'ajouter à son champ d'expertise des étapes de la chaîne d'approvisionnement et de fabrication, finalement.
Exact. Puis, tu sais, moi, je viens de l'île PO.
C'était mes deux seules notions en administration. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Germain Goyer.
Tu sais, j'ai souvent dit, là, je viens de l'île Perrault, puis c'est une région que j'aime beaucoup, mais sur l'île Perrault, il y a quelques concessions automobiles, et c'est fou de voir comment elles sont impliquées dans la communauté. Par exemple, toutes les équipes sportives que tu peux imaginer, ils vont donner un 100, 200, 300 piastres pour la saison. Il y a de la publicité dans les journaux locaux, etc. Tu sais, ces entreprises-là font rouler l'économie locale, sont impliquées dans leur communauté. Je sais qu'eux, ils font ça. Je suis pas fou, là. Je sais qu'ils font ça pour éventuellement fidéliser les gens.
Bien sûr.
Et avoir une
faire parler du
Exactement.
Réseau concessionnaire.
Mais
parce que souvent,
c'est
en plus,
des groupes,
ce sont des groupes.
Exactement.
Exactement.
Mais ça reste des groupes qui engagent des gens du coin, qui donnent des bons salaires à des gens du coin, puis qui participent énormément dans l'économie locale. Et si c'était seulement des points de vente, de livraison, blablabla, ils seraient plus capables de le faire dans le même ordre. Et c'est ça un peu la tragédie là-dedans. Est-ce que le progrès devrait avoir raison de tout? C'est toujours la question qu'on se pose en tant que société, hein. Mais bon, je pense que c'est un peu avec ce genre de réflexion-là qu'on va conclure le débat, c'est-à-dire 100% pour l'achat en ligne, 100% pour que ça soit plus simple.
Pour l'évolution, pour l'amélioration
Exactement.
Des processus,
oui,
absolument.
Tu peux pas être contre le prix unique non plus, comme on disait. Mais
je sais pas à quel point l'industrie est prête et surtout à quel point le consommateur est prêt.
Je pense encore une fois que ça va vraiment dépendre du type de véhicule. Puis ça va dépendre, est-ce que t'es fidèle à une marque ou pas, est-ce que tu connais ton vendeur depuis longtemps, est-ce que t'aimes aller dans le commerce. Écoute, j'ai vu des gens, pour ne pas le nommer, là, chez Chevrolet Le Perrault, qui allaient là prendre leur café le matin.
Oui.
Ils rentraient dans le département des pièces, puis parlaient avec les gars, puis les clients. Tu sais, genre, c'est plate, mais ça devient des milieux de vie pratiquement, ces concessionnaires-là. Et encore une fois, ça reste des joueurs importants dans les économies locales. Donc, j'espère que si cette transformation-là devient, tu sais, elle touche plusieurs marques, là, ben j'espère que ça va pas se faire au détriment des entreprises-là. J'espère que ça va être fait de manière harmonieuse. Oui, l'achat en ligne, OK, livraison, tout ce que tu veux, mais il faut que les concessionnaires trouvent le moyen de demeurer ces joueurs locaux importants-là, même si ça reste en vendant des voitures usagées au final.
Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio. C'est vrai! J'ai acheté des 30-32 chez Walmart, man. Pis pas capable plus de les monter aux genoux.
T'as pris du mollet, ça veut dire?
Ça avait l'air des jeans d'enfant.